Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Cette semaine, Pascal, je porte des lunettes, j'ai oublié de les enlever. Alors c'est ce qui fait que l'émission va être tout à fait spéciale, n'est-ce pas?
Mais il fait chaud. Hein? Il fait chaud. Je pensais que tu allais dire qu'il allait faire chaud.
Ah, c'est une semaine comme ça, hein, caniculaire du mois de septembre qui, mon avis, en tout cas, je me rappelle pas la dernière fois que la piscine était aussi attrayante un 6 septembre. Je veux dire ça.
Quelle émotion.
Mais ça arrive. Gros épisode, grosse émission. Moi, t'as aussi, attends là, des machins qui se plient, qui se déplient. Là, c'est ça,
ben le oui, thème, tout à fait. Je suis en train de le recharger. T'as celui qui se plie dans le même sens que moi.
J'ai aussi celui qui se plie dans l'autre sens.
La même marque. Et voilà.
Toi, t'as les Samsung. Moi, j'ai décidé que j'y allais avec les alternatives de Samsung. Ben, j'ai pas les Samsung. Donc, ça va me permettre d'avoir du Google qui n'est pas vendu ici et du Motorola.
Google client, mon chanceux. Coquimbo.
Oui, monsieur, qui est par ailleurs très excellent, à part qu'il n'est pas vendu ici. Faudrait qu'il y ait hors de prix aussi. Mais, j'ai aussi, puis celui-là, il m'excite un peu plus, le Motorola, parce qu'on en parle pas beaucoup de Motorola, mais ils essaient de... Bon, comme tous les fabricants qui ont pas la grosse marge dans le marché, ils essaient de distinguer en étant plus abordable, ce qui est toujours facile à dire. C'est pas nécessairement le cas, mais le Razr Plus rappelle à ceux qui ont plus que 25 ans l'existence du Razr à une autre époque, qui était le téléphone le plus vendu pendant un bout de temps
Le Razr, qui est un téléphone révolutionnaire qui faisait, écoute, un pouce d'épaisseur. Ouais. Si tu regardes le Razr aujourd'hui, il a l'air d'une brique, là. C'était pourtant le summum du minimalisme.
Et là, on revient avec l'écran pliable, donc on va en parler plus tard.
Et voilà, retour d'écran pliable. Est-ce que le futur sera pliable ou pas? C'est ce que j'ai écrit dans mon billet de blog sur mon site.
Question.
On va saluer et remercier nos partenaires pour 2023, TELUS, Plan Hub, Jura, parce que si vous aimez le café, vous allez aimer la Jura E8. Une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou pas de votre choix, avec du lait ou non. Et tout ça avec un seul bouton. Et ça, c'est assez extraordinaire. Pas un bouton pour le lait, un bouton pour... Non, un bouton, t'as ta boisson qui se verse dans ta tasse à ton goût. L'affichage avec un écran est super simple pour le choix des boissons. On a un ajustement super précis des quantités de lait, d'eau et de café qu'on désire. Le nettoyage est super simple avec un petit truc avec des enzymes dedans. C'est vraiment une compagnie suisse. Hein? Alors, la propreté, c'est assez fantastique. Allez voir la salle de montre Edica sur Saint-Laurent. Prenez pas de café avant. Vous allez sauter comme des petits moutons après votre visite parce qu'on va vous faire goûter leur délicieux café.
Voilà. Vous savez qu'on parle beaucoup d'interdire les téléphones en classe hein, ces jours-ci. Et moi, je pourrais vous parler de l'importance d'interdire les frais excessifs. Je dis ça parce qu'un de nos partenaires commanditaires, c'est Plan Hub. Vous savez, c'est un site de comparateur de tarifs, de forfaits cellulaires, Internet et tout le kit. C'est la rentrée, tout coûte cher, allez faire un tour parce que eux, ils vont vous trouver peut-être des forfaits moins chers. Pas juste pour le téléphone, pour l'Internet, pour la maison aussi, qui est quand même pas rien. Il y a des soins sauvés partout. Je vais juste dire ça comme ça parce que c'est vrai que tout coûte cher. Je veux dire, une bière coûte 8$, une bière qui est en canette, là, qui devrait coûter 4$, c'est rendu, ça n'a aucun bon sens.
14$. J'ai déjà payé dans un festival jusqu'à 14$ pour une bière en canette.
Ah, moi, je parle en épicerie, en plus.
Non, merci.
Non, c'est ça, c'est hors de prix.
Non, merci.
Bon point. On va aller tout de suite à l'actualité, Pascal, parce que c'est une émission express, costaude, chargée. Rappelez aux gens que, il existe un site d'information intéressant qui s'appelle InfoBref, si jamais ça vous intéresse. InfoBref, c'est une infolettre, en fait. C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. C'est une lettre, c'est un bulletin qui tombe dans votre inbox tous les jours, qui vous résume les principaux événements de l'actualité. Vous envoie une infolettre, donc il se lit en 5 minutes, top, tous les matins. Essayez ça, c'est gratuit, infobref.com. Ils ont, je pense qu'ils ont 18 000 et plus abonnés. Et c'est un bon chiffre, ça peut avoir l'air modeste, mais ce sont des gens, des vrais humains qui s'abonnent activement. C'est pas une... Il n'y a pas de campagne de massive de récupération. Non, c'est des gens qui tiennent à s'informer. Il y en a. Il y en a beaucoup. Et c'est un moyen de le faire. Évidemment, vous pouvez aussi, parce que c'est pas de la concurrence, c'est du complément. Vous abonnez à toutes les infolettes du devoir, mais ça, c'est une autre conversation qu'on aura plus tard. Parlant de choses qui s'en viennent plus tard, Pascal, un nouveau MacBook pas cher s'en viendrait. Mais là, quand tu dis MacBook pas cher, tu parles de genre catégorie Chromebook, là. Ça se peut, ça, un Mac?
Exactement, exactement. C'est une rumeur. Écoute, on parle de rumeur parce que c'est sûr que ça va faire jaser. Puis, mm-hmm. sûrement des gens qui vont t'aborder en disant, oh ouais, Mac va sortir, Apple va sortir un Mac pas cher. Faut prendre avec un énorme grain de sel. C'est une nouvelle sur un site DigiTimes Asia, qui cite une source de l'industrie comme quoi Apple préparerait un MacBook plus abordable pour compétitionner dans le marché de l'éducation, les Chromebooks. Parce que dans beaucoup de commissions scolaires, maintenant, on dit achetez pas de MacBook à 1 000 $ et plus. Achetez-vous un Chromebook à quelques centaines de dollars. Ça fait le travail. On chercherait à Apple en ce moment à la recherche de composantes moins coûteuses. Donc, ça ressemblerait à un MacBook, mais avec des composantes internes moins coûteuses. Le boîtier sera en métal moins cher. Je sais pas comment on
a un métal qui rouille, j'espère que non.
Je sais pas. Hein, c'est pour ça qu'il faut prendre avec un gros grain de sel quand on a aussi peu d'informations. Ce serait fin 2024 au plus tôt, mi-2024 au plus tôt, parce qu'en ce moment, il n'y aurait pas d'activité chez Foxconn, qui est le gros manufacturier des produits Apple. Normalement, s'ils sortent quelque chose début 2024, ils sont déjà en train de le produire, ils sont déjà en train de faire préparer la ligne de production. Donc, ça prend avec un très gros grain de sel. Un analyste dit que c'est probablement que Apple travaille peut-être à faire un MacBook encore plus avantageux pour 1 000 $. Probablement prendre le processeur, je sais pas moi, M3, M2 ou le mettre dans un truc moins coûteux, fait que tu as un ordinateur extrêmement puissant pour 1 000 $ versus un Chromebook à 400 $, mais qui aurait beaucoup moins de puissance puis de durabilité. Donc j'aime beaucoup ça. Si vous entendez parler d'un Mac pas cher, moi je pense que c'est comme le monstre du Loch Ness ou le Yeti.
Un Mac pas cher.
On entend parler ça. Non, mais si ça vient à mode, on en reparle. ils vont lancer ça, là. Ça s'en vient, Mac pas cher.
Ils ont fait beaucoup de promotions pour l'iPad dans le secteur éducatif. Donc ça serait aussi étonnant de les voir flipper leur stratégie vers le Mac.
Ben oui.
C'est-à-dire, un Mac à 350 $, c'est sûr qu'ils en vendraient un million. Les Chromebooks sont vraiment plus comme 600-800 $, en fait, dans la vraie vie.
Oui, on a mis l'accent. Moi, ce que j'aime beaucoup des Chromebooks, c'est des machines qui sont simples d'utilisation. Ça démarre vite. Et les gens disent, ouais, mon Mac démarre vite. Non, un Chromebook, c'est très rapide. Ouais. Pour moi, c'est ma pantoufle et l'ordinateur portable que j'utilise la majorité du temps, c'est un Chromebook. Voilà. J'ai pas de travail à faire avec des applications. Je suis pas un infographiste. Je fais pas de montage vidéo avec mon laptop. Un Chromebook pour ouvrir, aller sur le web. Assez fantastique. Ça met à jour très vite. Je suis confiant quand je suis avec ça. Puis comme il est justement pas très cher.
J'ai beaucoup de collègues qui ne font qu'écrire du texte, qui s'achètent un MacBook Pro parce que c'était ça qu'on achetait il y a 15 ans, mais effectivement, ça a beaucoup changé. Il y a possibilité d'aller chercher des appareils à 500 $ ou moins qui font ce que la plupart des gens ont besoin que ça fasse un travail de bureau léger. Bon point. Je vais inverser mes actus suivantes, Pascal, parce que comme tu parles d'Apple, je vais parler d'Apple aussi. On va parler de soccer, en fait, et plus précisément de Lionel Messi, parce que vous le savez, parce que vous le savez, j'espère que vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, Lionel Messi a joint les rangs de la MLS au courant du mois de juillet. La superstar du soccer international qui était en Europe, qui était au PSG jusque-là, a été, on n'a pas tous les détails des arrangements financiers, mais a été attiré. Entre autres avec un gros chèque de paye et aussi avec la promesse que sa famille serait prise en charge de façon confortable et convenable en Floride parce qu'il s'est installé à Miami. La MLS, qui est donc la Ligue de soccer professionnelle nord-américaine, a signé au printemps une entente de 10 ans avec Apple, évaluée à 2,5 milliards de dollars américains, pour qu'Apple puisse diffuser sur sa plateforme Apple TV en exclusivité les matchs en version numérique, en trois langues, français, anglais, espagnol, de la MLS, mais aussi de la Ligue des Coupes, qui est une espèce de mini-tournoi qui a eu lieu le mois dernier entre les équipes de la MLS et les équipes de la Liga MX au Mexique. Tout ça mis ensemble, ce qu'on a vu au début juillet, ou en tout cas à la fin juillet, c'est l'effet Messi sur Apple TV. Et là, on peut enfin le chiffrer. Il y a une agence qui a regardé ça de plus près, et ce qu'elle arrive à dire, c'est que le 21 juillet 2023, donc le jour du premier match de Messi avec Miami, 110 075 nouvelles personnes se sont abonnées à la Season Pass de la MLS sur Apple TV en un jour, en 24 heures seulement. C'est un gros coup parce que jusque-là, la moyenne d'abonnement quotidien, donc à chaque jour en moyenne sur Apple TV, il y avait 5 400 personnes qui s'abonnaient à la Season Pass de MLS. Donc, c'est plus que 20 fois plus, c'est quand même pas rien.
Wow.
Il y a eu ce match-là. Et ensuite, il y a eu un deuxième match la semaine suivante, le 25 juillet, où Messi a fait 2 buts en moins de 27 minutes. Ils ont enregistré 65 000 nouveaux abonnés cette journée-là seulement. Quand on dit qu'il y a un effet Messi, il y a effectivement un effet Messi à tous les niveaux, parce qu'il y a eu des ventes de billets de saison là, en MLS plus concrets pour aller assister au match en personne, mais aussi on voit l'effet que ça a eu sur la diffusion. C'est un événement assez unique. À partir de là, l'équipe de Messi, le Miami FC, est allée gagner la Ligue des Coupes, ce qui est quand même pas rien, parce que l'équipe est encore la dernière au classement de la MLS, une saison vraiment atroce. Mais depuis que Messi est là, tout d'un coup, ils gagnent presque tout le temps, sinon tout le temps. Je pense qu'ils ont annulé un match ou ils ont perdu un match sur les 8-10 matchs qu'ils ont joué à date.
Mais bon, ça, écoute, demande-moi pas ça.
Mais c'est un revirement total, l'affaire.
C'est fou.
Ça dit deux choses. La première, c'est, je vous dis, si vous jouez au soccer, des fois, un bon joueur peut faire une méchante différence dans une équipe. Ça prend pas grand-chose. Mais l'autre truc, c'est, je pense qu'il faut s'attendre, et ça, c'est assez facile à faire comme prédiction, parce que les plateformes de streaming investissent de plus en plus dans ce genre de stratégie où tu arrives avec un super joueur et tu bâtis autour de cette super personnalité-là qui attire clairement plein de gens. Messi est content d'être à Miami, ça paraît, il est heureux, il sourit tout le temps, il félicite tout le monde, il fait des high-fives sans bon sens, donne son chandail à tout le monde. Et ça profite à tout le monde qui est abonné à ça, qui est inscrit, qui est associé, je devrais dire, à ça, la MLS, à Apple aussi. Dans les gradins des équipes étrangères, on voit qu'il y a plus de maillots roses, les couleurs de Miami, que de l'équipe locale, bien souvent, incluant à New York. Donc, j'ai hâte de voir, il pourrait être à Montréal l'année prochaine. On pourrait le voir dans un match contre le CF Montréal l'année prochaine, à l'été 2024.
Wow.
On m'a promis que ce serait au stade Saputo parce que c'est le stade officiel de l'équipe. C'est pas un gros stade, 18 000, 19 000 places.
Et bon, ça risque d'avoir du monde de partout autour qui vont venir. Oh, oui. Et voilà. Et c'est drôle parce que c'est Michael Jordan qui a fait que Nike est devenu le géant qu'il était, une association.
C'est un bel exemple, ça aussi, ouais, dans l'histoire.
Comme ça, c'est le même principe. La Formule 1 avec Netflix, la série Drive to Survive, le Tour de France, qui a maintenant sa version Tour de France à la Drive to Survive. Ça remonte. On se rend pas compte à quel point l'impact est fort sur la popularité d'un sport, d'une activité.
Bon, d'un sport spectacle, hein, c'est un peu ça. Ça prend une superstar, puis ça devient tout un phénomène avec l'attraction. Parlant de phénomène de divertissement qui a connu son heure de gloire, mais qui pourrait revenir, c'est la 3D. Il y a des moniteurs 3D qui font leur retour du côté des nouveaux, Pascal.
Oui, j'ai été très surpris. Le salon IFA de Berlin. Un jour, je vais y aller. J'aimerais ça.
J'aimerais ça aussi. Peut-être qu'on pourrait faire une dose de tech en direct d'IFA un jour.
En direct de l'IFA. Et c'est plus industriel, je pense. C'est très gros, mais c'est plus industriel, plus techno. Il y a beaucoup de produits européens, évidemment, qui sont pas disponibles ici. Lenovo a lancé le ThinkVision 27 3D, c'est son petit nom, le ThinkVision 27 3D, qui a une résolution de 4K, qui affiche son image en 3D. Mm-hmm. Et je suis assez surpris que ça revienne, parce que ça a été la mode il y a quelques années. Tout était 3D au CES, dans les salons techno, on nous vendait des téléviseurs 3D qui demandaient des lunettes. Cet écran-là n'a pas besoin de lunettes. Donc, c'est
de l'auto-stéréoscopie.
Et voilà, donc tu as deux images qui sont projetées, qui sont affichées. Tes yeux voient les deux images en alternance. Et c'est assez particulier, ces moniteurs-là, parce qu'il faut que tu sois dans le bon endroit. Il faut que tu te positionnes devant le moniteur. Tu peux pas être vraiment deux devant, sinon les deux voient une image un peu floutée, un peu brouillée. Mm-hmm. Mais si tu es au bon endroit, l'effet est surprenant. C'est un moniteur qui coûte 3000 $ US.
Quand même.
Donc 4000 $ qui va être en janvier 2024. Donc, c'est même pas à temps pour Noël. J'ai hâte de voir. Ça va être un usage très, très limité. J'imagine que c'est pour prévisualiser les univers virtuels sans avoir à constamment affiner tes lunettes. Au lieu de retourner à ton clavier, enlever, en mettre ton casque, voir ce que ça a l'air, tu peux prévisualiser. Et je vous le dis, l'effet est assez surprenant. J'ai fait l'essai du Loom Pad 2. C'est une tablette pour les passionnés de 3D. C'est une tablette qui semble tout à fait conventionnelle, mais qui affiche en 3D, sans lunettes. Et là, ceux qui le regardent sur YouTube ne peuvent pas le voir. L'effet est assez subtil à la
avec un webcam. Parce que là, on reconvertit en 2D une image 3D, ça revient au même.
Exactement, mais je t'assure que l'effet, avec un petit iPad, une tablette, l'effet est surprenant. En ce moment, je me suis même surpris. Là, il y a une dame qui me regarde. Et son visage sort de l'écran. On peut visualiser des images et on a même la caméra stéréoscopique intégrée avec le Loom Pad 2.
Ah bah oui.
Fait qu'on peut prendre des photos stéréoscopiques, on peut faire des appels vidéo en stéréoscopie. La compagnie travaille très fort. Au Canada, c'est pas Loom Pad 2, c'est la compagnie ZTE. Au Canada, c'est le Nubia Pad 3D. On doit se procurer, qui est le même produit, mais avec une marque différente. Technologie comme ça. Donc, c'est assez rigolo qu'on va peut-être avoir un retour de la stéréoscopie avec des moniteurs de 27 pouces. L'effet risque d'être assez surprenant. tu risques de regarder une photo de quelqu'un en stéréoscopie bien faite. Pour des conférences vidéo, ça pourrait changer la donne et c'est peut-être quelque chose qui va être la norme.
Ben ouais. Ça fait des années qu'on essaie de développer ces fameux moniteurs auto-stéréoscopiques. Mais effectivement, ils coûtent encore très cher, malheureusement.
Et voilà.
Quelque chose qui ne coûte pas cher, Pascal, c'est une mise à jour de son téléphone Android. Et c'est ce que Google propose aux gens qui ont un téléphone Android 13 en ce moment. C'est une mise à jour qui fait la place, qui tasse un peu les choses pour la future mise à jour d'Android 14. Vous savez qu'Android, ce qui est magique, c'est que c'est pas parce qu'on l'annonce qu'elle est directement disponible sur votre téléphone, parce qu'il faut que votre fabricant, que votre fournisseur, que Jean-Paul là-bas, que plein de monde approuve et ça prend du temps, puis éventuellement, vous allez l'avoir peut-être l'année prochaine. Mais dans ce cas-ci, c'est une mise à jour qui fait partie des mises à jour mensuelles qui viennent avec Android, donc vous pouvez l'avoir rapidement, qui propose des nouveautés qui sont précurseurs de ce qui s'en vient avec Android 14, mais qui sont aussi des nouveautés qu'on a vues, qui ont été discutées durant Google I.O. début juin, de la fameuse conférence pour les développeurs d'applications Android, entre autres. Dans la mise à jour, c'est quand même assez intéressant. Il y a différentes choses. C'est une mise à jour qui est remarquable, ne serait-ce que parce qu'on a revu le logo d'Android. On prépare un peu le schématique visuel, j'imagine, pour une mise à jour de la plateforme plus costaud plus tard cet automne. Mais on a, entre autres choses, mis un A majuscule Android, qui jusqu'ici était strictement minuscule. Donc ça, c'est un truc. On a revu la typo. C'est pas visuellement, ça change pas grand-chose à part le majuscule, mais on a aussi revu le petit robot, le petit droïde qui s'appelle Pascal. Oh, j'ai perdu, t'as plus de son. Qu'est-ce qui se passe? T'as disparu?
Le bug droïde.
Le bug droïde.
Je m'excuse,
voilà.
J'ai éteint mon micro 2 secondes, un gros camion passait. Le bug droïde, je savais pas qu'il s'appelait comme ça.
Bug droïde, le petit robot qui, jusqu'ici, je savais pas du tout, qui était vert, et qui maintenant est multicolore. Et qui a aussi une version velue, donc en fourrure. J'imagine qu'ils vont essayer de vendre des toutous, je sais pas. Je disais sur les forums, évidemment, parce que tout le monde a une opinion sur tout. Il y a des gens qui réagissent très négativement à un Android en poilu. Je peux même pas croire qu'on ait une conversation là-dessus.
Je pense que c'est pour montrer. Ils ont toujours affiché le petit bonhomme Android. Moi, je l'appelais le petit bonhomme ou la bébête Android de différentes façons pour montrer que chaque manufacturier pouvait le configurer.
Exactement.
Quand j'étais allé au Mobile World Congress à Barcelone, ils distribuaient des petites épinglettes. Chaque kiosque avait son petit bonhomme avec un petit chapeau, avec un look différent pour montrer que chaque manufacturier pouvait mettre à sa main Android. Mm-hmm. Fait que le fait qu'ils soient en 3D, pour montrer qu'on va encore plus loin, puis évidemment, ils vont le décliner sous toutes sortes de looks pour que ça représente mieux, peut-être dans des univers virtuels. Est-ce qu'on va encore une fois, vous parlez de 3D?
Pas seulement ça, Android 14 va insister sur la personnalisation au niveau de l'utilisateur, des applications, de l'apparence visuelle, puis ainsi de suite. Puis ils ont tout le schématique graphique, l'interface visuelle, tout le kit. Il y a des nouveautés plus concrètes que le logo là dans la mise à jour qui était présentée, notamment l'introduction de l'application Lookout, qui est une nouvelle fonction d'accessibilité. C'est une façon par les téléphones compatibles de dire vocalement ce qu'on voit à la caméra du téléphone. Mmh. Donc, si vous regardez l'exemple qu'ils nous ont montré là-bas et que j'aimerais utiliser, c'est qu'ils filmaient quelqu'un qui cherche son téléphone, pas son téléphone, son portefeuille dans sa chambre, c'est pas éclairé, et qui utilise son téléphone et qui a pas nécessairement qu'il y a des troubles de vision, peut, à travers Lookout, savoir que ton téléphone est sur la commode, il y a des billets qui dépassent, il y a un billet de 10, il y a un billet de 5. Comme ça, tu peux donner le bon montant d'argent au livreur de nourriture à la porte sans avoir nécessairement à te regarder ça de très près puis prendre une éternité à trouver ce que c'est. Donc ça fait son introduction dans la mise à jour actuelle. Il y a un nouveau widget pour l'assistant Google qui va vous livrer de l'information à l'écran, sur l'écran d'accueil de votre téléphone, la météo, votre agenda, basé sur votre agenda, des rendez-vous à venir, le temps que ça prend pour se rendre, des informations sur les vols, si vous prenez l'avion, si vous êtes un voyageur africain, des choses comme ça. Alors, on a aussi amélioré, et ça, c'est pas rien pour les gens qui voyagent un peu, le portefeuille de Google sur les téléphones Android pour inclure la compatibilité avec les cartes, les billets, les passes, tout ce qui a un code QR et qu'on peut garder dans son portefeuille. Les billets d'avion, les cartes d'autobus, des choses comme ça. Il y a des billets spectacles aussi qu'on a. C'est strictement simplement à prendre en photo et automatiquement, ça va créer une carte dans le portefeuille. Ça, je sais pas si c'est quoi. Il y a un format de fichier pour le portefeuille, pour le wallet d'Apple. Entre autres, c'est les PK Pass, les passes qui passent. Et Android n'est pas compatible avec ce format-là. Ça prend une application tierce souvent, puis ça marche pas tout le temps. Et là, on commence à vouloir intégrer ça. C'est à peu près temps parce que les billets d'avion et ces choses-là qui s'intègrent à son téléphone, c'est pas mal plus fun que d'avoir à sortir le billet ou qu'avoir d'aller dans l'application de la ligne aérienne ou peu importe. Donc, on sauve une étape. Il y a une version pour Android auto de Zoom qui fait son apparition aussi. Donc, on pourra prendre des appels, pas des vidéos, mais des appels Par exemple, on pourrait faire ça en voiture, mais on ne nous verrait pas en ce moment. Ce serait un peu dangereux si on pouvait nous voir. Et quelques autres nouveautés. Ouais, ben c'est ça. Je préfère un clin d'œil à l'autre balado que je fais avec C23 qui ça tient la route et dire hey, je suis en train de faire une balado dans l'auto. Mais non, c'est dangereux. Alors, je ne le ferai pas en studio.
Je ne veux pas vous perdre, M. McKenna.
Non, ben, faut faire attention, effectivement. Et ça fait un peu le tour. Il y a d'autres petites améliorations à gauche, à droite. Tout ça est disponible gratuitement. Ça télécharge rapidement et se met à jour. Et vous avez un téléphone presque neuf. Pour autant que vous avez Android 13 dessus. En attendant, évidemment, le mois d'octobre, quand Android 14 risque d'être présenté officiellement à côté du Pixel 8. Chose dont on pourra reparler à ce moment-là. Donc, allez-y dans vos réglages, trouvez l'onglet de mise à jour et vérifiez parce que peut-être que vous l'avez qui vous attend, cette mise à jour-là, c'est peut-être là pour vous. Entre-temps, nous, on va continuer l'émission parce que ça prend quand même du temps, ces choses-là. Faut que je dépoussière mes lunettes, donc on prend une courte pause et on revient. On va parler de philanthropie numérique à l'ère des plateformes web modernes après la pause avec les gens de Noué, N-O-O-E, une nouvelle petite entreprise québécoise qui veut faciliter le partage de dons de dons caritatifs en entreprise, dans les festivals, dans les événements et même à l'école. Restez avec nous, on en parle tout de suite à une tasse de tech.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une tasse de tech, édition caniculaire de septembre. Tu sais que c'est un record, Pascal, ça va pas bien pour ça. D'ailleurs, la météo, on n'est pas, c'est pas une balado météorologique, vous en faites pas, mais quand même, il fait chaud.
Donc, toujours le volet météo dans notre balado, c'est Alain qui a une vocation ratée.
Ben, en fait, j'ai un peu d'animateur radio parce que je peux vous donner la météo, les résultats sportifs sur le fly comme ça, l'heure aussi. Il est présentement 12h30, c'est pas vrai, il est pas 12h30 partout, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi François Pérusse qui influence les niaiseries que je peux dire. On va parler de choses sérieuses. En fait, on va parler de quelque chose qui c'est de la techno, mais c'est aussi la philanthropie, c'est quelque chose dont on parle rarement au Québec. Il y a plein de bonnes raisons à ça, mais on a un problème, on a un recul, je veux pas dire un retard, mais on est donc la tendance philanthropique au Québec est pas aussi développée qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et pour corriger ça un peu, il y a des gens au sein de l'agence de développement d'applications Mirego qui ont créé une unité à part il y a quelques années qui s'appelait le projet Team Forward, qui est une façon de redonner au suivant d'une certaine façon à travers des dons philanthropiques d'entreprises et d'employés. Tout ça mis ensemble, ça a été renommé, reformulé, reformé au sein d'un organisme qui s'appelle maintenant Noué, N-O-O-E, accent aigu. Et pour parler de comment ça peut changer dans le fond la façon dont les festivals, entre autres, ou les événements en général sont organisés et peuvent faire plus de place aux dons caritatifs, on a la cofondatrice et la directrice générale de Noué, Sarah Maud Joly, et Florence Petit-Gagnon, dont le rôle est l'inverse de ce que j'ai dit là, dans le désordre. Donc, Florence et Sarah Maud, bonjour.
Bonjour.
Je réalise que je vous ai nommé et j'ai donné des titres inversés. Donc, c'est pour démêler ça un petit peu, je vais commencer avec Florence, vu que tu as fondé, cofondé Noué, qui était à l'époque le projet Team Forward. Tu peux nous expliquer un petit peu d'où est venue l'idée, qu'est-ce que vous faites exactement?
Absolument. Comme tu l'as dit, l'idée vient d'une entreprise qui s'appelle Mirego, une entreprise qui est spécialisée en développement de solutions numériques. Mirego à UBEL, le Canadien de Montréal, on est un partenaire technologique. Et on a une culture d'entreprise très forte et on a le souci chez Mirego. Je dis « on » parce que j'ai été longtemps dans l'équipe de Mirego, maintenant dans l'équipe de Noué, mais Mirego avait le souci de faire une différence dans sa communauté, de redonner à des organismes, mais d'impliquer les membres de son équipe dans le choix des causes à soutenir. Donc, au moment où l'idée est venue, c'était vraiment pour répondre aux besoins de Mirego. Puis, on a regardé ce qu'il y avait comme solution, qu'est-ce qui se faisait sur le marché, puis on n'a rien trouvé qui nous permettrait de vraiment mettre le choix dans les mains des membres de notre équipe, puis leur permettre de redonner à plusieurs causes aussi. Fait qu'on s'est dit, ben, on fait ça dans la vie, créer des outils technologiques pour plein de sphères. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas justement pour la technologie? Mm-hmm. Fait que de là est venue le projet, on l'a créé pour nous d'abord. Donc, on est une petite équipe de bénévoles chez Mirego qui ont mis la main à la pâte pour créer un petit outil technologique. Ça a été utilisé pendant 2 ans à l'interne chez Mirego. Puis, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, que ça permettait aux membres de notre équipe de redonner une partie des profits de l'entreprise, de choisir où ça allait, de les mobiliser là-dedans. Puis on s'est dit, c'est sûr qu'il y a d'autres entreprises qui ont les mêmes besoins que nous, qui ont envie de s'impliquer, de redonner, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour le faire. Fait que l'idée nous est venue de créer une fondation à part de Mirego, donc pour que Noué soit vraiment indépendant, gère ses choses, puis puisse travailler avec toutes sortes de types d'entreprises. Puis ben maintenant, ça fait tout près de 2 ans, on prend de l'expansion, puis c'est tellement un beau projet que moi, en fait, ça m'a fait... J'ai changé de bateau.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Donc, ce que ça permet concrètement, c'est qu'une entreprise qui veut faire un don à un organisme peut, de certaine façon, demander à ses employés de partager cette somme-là en différents organismes qui leur tiennent à cœur à eux personnellement, si je comprends bien.
Exactement. C'est ça. Dans le fond, il y a différentes façons de faire des campagnes dans la plateforme Noué. Il y a la formule plus standard qui est vraiment de dire que l'entreprise donne un montant par personne, donc une allocation qu'on appelle. Et là, à ce moment-là, bien, l'employé choisit tout simplement à travers la plateforme et le nombre intéressant d'organismes qui font partie de la plateforme. Donc, ils peuvent vraiment choisir à qui remettre ce montant-là. Ils peuvent remettre à un seul organisme comme à plusieurs à la fois. Il y a aussi la formule aussi pour les entreprises qui veulent engager encore plus les employés à faire leur propre contribution, donc de permettre à l'employé de faire un don et l'entreprise vient jumeler le don aussi, vient doubler ou vient rajouter un montant.
Matcher
le don. Puis, il y a aussi la formule qui est tout simplement d'organiser un mouvement, une campagne où on encourage les gens dans l'équipe à redonner de leur propre sous. Donc, l'entreprise ne vient pas nécessairement mettre un montant, mais on vient quand même créer une campagne. Fait qu'il y a différentes façons de donner. C'est un peu ce qui est beau de notre plateforme aussi, c'est qu'il y a une belle flexibilité.
Je vois qu'il y a un volet scolaire.
Toutes les grandes entreprises. Oui.
Parce que le son a coupé un petit peu. Excusez-moi, j'avais.
C'est une bonne question quand même, Pascal. Vas-y.
Je vois que on suggère d'utiliser Noué dans votre classe, de sensibiliser les jeunes dans les écoles, les enseignants à mobiliser les jeunes à l'importance de s'impliquer et redonner. C'est amusant comme programme. C'est un programme pour les professeurs. C'est pour les.
En fait, c'est vraiment un volet très embryonnaire de Noué, mais on a déjà commencé des projets pilotes avec certaines écoles, justement parce que la boucle du don, c'est aussi la sensibilisation à donner. Donc, avant de donner, il faut être sensibilisé à une des causes, le pourquoi c'est important de donner. Donc, pour nous, c'est justement de venir dans les écoles, accompagner des enseignants, des enseignantes qui souhaitent sensibiliser leurs jeunes à la philanthropie, à l'engagement social. Donc, on débute tranquillement à être présent avec certaines écoles pour venir développer un contenu éventuellement qui pourra peut-être un jour s'intégrer au programme du ministère. On peut rêver. Mais c'est important. En étant sensibilisé, ben, on fait des citoyens engagés plus tard qui vont vouloir contribuer encore plus.
Puis concrètement, en fait, c'est qu'on a un répertoire de plus de 3000 organismes enregistrés au Québec que les étudiants peuvent aller consulter, puis ils peuvent en apprendre plus. OK, si l'école est située dans tel territoire, on peut regarder. Donc, OK, ben, dans la région de Chaudière-Appalaches, il y a 600 organismes. OK, est-ce qu'on peut faire une recherche, voir qu'est-ce qu'ils font? Ils sont si nous. Donc, c'est vraiment de mettre toute cette information-là dans les mains des professeurs, des jeunes, puis de pouvoir se l'approprier puis sensibiliser les jeunes.
Je vois dans la liste, c'est par catégorie, des causes, les associations d'aînés, l'alimentation, les animaux, l'itinérance, la pauvreté, l'exclusion sociale, la justice et la défense des droits. Donc, il y a vraiment des organismes 3000, comme vous l'avez mentionné. Je vais mentionner votre site et épeler votre nom de l'organisme. C'est Noué, parce que vous vous attachez aux causes. C'est ça le slogan. C'est Noe.org. Noe.org. Noé avec deux E-O, mais ça se prononce Noué, parce qu'on s'attache aux causes. Jetez un coup d'œil là-dessus, c'est assez amusant.
Oui, c'est intéressant. Il y a un volet, moi, le volet qui m'intrigue le plus, en fait, c'est celui qui est associé à la création d'événements. Donc, les gens qui créent un événement, qui vendent, j'imagine, des billets pour des événements, que ce soit des festivals ou peu importe, ou même juste des laissés-passer, peuvent intégrer la plateforme, peuvent intégrer un don qui irait à l'organisme du... Tu m'as donné au choix de la personne qui achète les billets. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Absolument. En fait, c'est le même concept un peu que dans les entreprises. C'est-à-dire qu'un événement qui souhaite participer aussi activement à soutenir la communauté dans laquelle leur événement se tient, ou peu importe dans un secteur, ça peut être un secteur d'activité plus particulier, peut permettre aux gens qui participent à l'événement, aux festivaliers, aux participants de redonner à la cause de leur choix. Fait que, notre but, c'est vraiment de permettre aux gens de se rattacher à leurs valeurs, à leurs causes. Toutes les causes sont bonnes, peu importe ce qu'on a comme vécu dans la vie. Fait que ce soit en événement ou en entreprise, le concept est un peu le même, c'est-à-dire que les gens peuvent remettre après ça un montant qui est remis par l'entreprise ou l'organisation ou l'événement à l'organisme de leur choix via la plateforme.
Je peux organiser pour l'entreprise, la fameuse épluchette de Bleden dans mon entreprise, la vente de billets à travers votre plateforme et, réserver un montant d'argent que les gens peuvent ensuite remettre à l'organisme de leur choix?
Exactement.
Donc, en plus d'avoir du bon maïs, on peut avoir une offre caritative intéressante. C'est comme un 2 pour 1, ça, c'est intéressant.
Exact.
Je prends des notes.
Et ce qui est important à mentionner aussi, c'est que notre plateforme est offerte gratuitement. Donc, le but, c'est vraiment que 100% du don qui est remis par l'événement, par l'organisme, est aux organismes qui en ont besoin. Donc, pourquoi pas le faire?
Ben oui, mais c'est bon. Puis les gens donc, qui ont une cause qui leur tient à cœur peuvent en parler à leur employeur. Comment ça fonctionne? Comment vous enrôlez dans le fond les entreprises? C'est les gens qui se prennent connaissance de l'existence de votre plateforme peuvent partager l'information à leur employeur qui ne peut pas prendre les dispositions conséquentes?
Absolument. Dans le fond, sur notre site web que vous avez mentionné tout à l'heure, là, il y a toutes les informations pour prendre contact avec quelqu'un de notre équipe. Après ça, ben, on regarde vraiment les besoins. On recommande le bon type de campagne selon les besoins d'entreprise. Puis c'est très, très simple. Là. En quelques minutes, on peut démarrer une campagne, peu importe le type, là, dans l'entreprise. Fait que c'est hyper, hyper simple. Puis on a un service à la clientèle très personnalisé aussi. Là. Donc, c'est une de nos belles forces.
Intéressant. Je finirai sur une question parce qu'on parle, quand on pense philanthropie, on pense à un nouveau pavillon d'université, vous savez, créé au nom du milliardaire richissime qui a voulu bien redonner à son alma mater, mais c'est d'autres choses, c'est plus que ça. Ça peut être des dons personnels, des dons d'entreprise à travers les travailleurs aussi. Ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. On peut donner un certain montant à un organisme de son choix et ça a des effets bénéfiques. Ça représente quoi le genre d'organisme que vous avez? Vous êtes 300 organismes, entre autres, 3000, pardon, qui sont présents sur la plateforme. C'est pas nécessairement des grandes institutions. C'est des gens qui ont juste des besoins criants, j'imagine.
Notre but, c'est d'avoir à terme tous les organismes enregistrés au Québec. Donc, Centraide est sur notre plateforme. On a, moi, c'est l'exemple que j'aime utiliser, mais on a un organisme, il me semble que c'est à Joliette qui vient en aide au perroquet. Puis, je veux dire, on est, nous, si un organisme est enregistré et, tu sais, on fait une petite recherche aussi pour que ce soit
légal, là, il faut que les organismes soit enregistré à l'Agence de revenus du Canada. Donc, puis on fait quand même un tour à travers la santé financière de l'entreprise et de l'organisation. Donc, c'est ça.
Mais notre but, c'est que c'est de démocratiser ça un peu, d'avoir toutes les causes qui sont là, puis de permettre à chaque donateur de venir vraiment s'attacher, se nouer à la cause qui lui touche. Parce que l'Institut Mallet fait des études à chaque année, c'est reconnu, on est toujours plus enclin à donner à des causes qui nous touchent, puis c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on contribue à un hôpital, souvent c'est parce que on est allé à cet hôpital-là, quelqu'un de notre famille a été là, donc, mais nous on s'est dit, ben il faut trouver une façon que les gens ont accès à ces causes-là, les découvrent aussi, parce qu'il y en a beaucoup, là, on est à plus de 3000 sur le site, mais il en reste encore à ajouter. Fait que c'est de les découvrir, puis de les aider, puis
c'est de permettre aussi que notre plateforme permet à des plus petites organisations, plus petits organismes d'avoir une vitrine aussi, parce que c'est pas tous ces organismes-là qui ont du budget marketing pour se faire connaître ou qui ont un grand réseau. Il y en a qui ont des grands besoins, mais qui allouent conséquemment toutes leurs ressources financières dans le service qu'ils doivent rendre à la clientèle, donc qui n'ont pas le budget pour se faire connaître d'une autre façon. Nous, on est là justement pour leur permettre d'avoir aussi une vitrine au même titre que d'autres qui ont plus de budget. Donc voilà, c'est vraiment notre rôle de permettre aux gens de découvrir tous ces organismes-là.
C'est une bonne idée, c'est une plateforme. On peut s'appeler un taxi avec notre téléphone sans se casser la tête. Ce serait la moindre des choses qu'on fasse la même chose quand on veut redonner à la communauté, aux organismes qui aident aussi bien à la lutte contre le cancer que la survie des perroquets à Joliette, si j'ai bien compris. Donc, il y en a vraiment pour tous les objectifs. C'est intéressant. Allez voir ça, Noé, N-O-O-E.org. Sarah Vaud-Joly, directrice générale, et Florence Petit-Gagnon, cofondatrice. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. On vous souhaite bon succès pour la suite. Puis, évidemment, s'il y a du nouveau, s'il y a quoi que ce soit, nous au courant. Ça nous fera plaisir de faire le suivi.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Mais pareillement, nous, on prend une très courte pause et on parle de téléphone pliable juste après ça. Restez avec nous à Une Tasse de Tech.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
Des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et re-bienvenue à Une Tasse de Tech édition pliable. Si vous voulez la plier en deux, la mettre dans vos poches, vous le pouvez. Je vais enlever mes lunettes parce que là, on passe à la portion plus ludique de l'émission.
Mm-hmm.
Avant de parler de ces nombreux appareils téléphoniques pliables que nous avons entre nos mains, et nous en avons quatre, mesdames, messieurs, qui ne sont pas la même marque ni le même modèle dans les 4K. Quand même, on a quelque chose. Je pense qu'on est les premiers à faire ça au Canada, je vais dire ça comme ça. J'ose le dire. Mais avant d'en parler, je vais vous parler d'un truc, parce que si vous le saviez pas, je vous l'annonce, on a un petit problème entre Meta, Google et les médias d'information canadiens, où Meta, Google ont décidé de bloquer les liens vers les médias. Mais on a quand même le goût de s'informer. Hein? Puis comment on peut faire? Ben, c'est facile, on peut contourner ce blocage grâce à un VPN. Mm-hmm. C'est ce que propose en fait CyberGhost VPN, qui est un partenaire d'Une Tasse de Tech, vous le savez, depuis plusieurs mois. Et ce mois-ci, ce qu'ils proposent, c'est un outil, leur fameux VPN, qui permet, si vous géolocalisez sur Internet avec une adresse IP à l'extérieur du Canada, de réaccéder au contenu d'information sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez aussi aller directement sur les sites sans utiliser de VPN, mais si vous voulez déjouer Google et Facebook, qui continuent quand même à voir le contenu médiatique du Canada, mais à l'extérieur du pays seulement, vous pouvez le faire avec CyberGhost VPN. Et on a un spécial CyberGhost et Une Tasse de Tech. Ici, on vous offre l'abonnement pour un an à 83% de rabais. C'est pas plus de 2$ par mois pour ce VPN. Il y a aussi plein d'autres qualités, parce qu'un VPN, vous savez, ça sécurise votre connexion Internet. Ça permet aussi de vous protéger sur des réseaux Wi-Fi publics, dans un aéroport, dans un café, dans un parc. En fait, si vous connectez du Wi-Fi dans ces trois endroits-là et vous n'utilisez pas de moyens de protection comme un VPN, c'est pas une bonne idée, je vous le dis tout de suite. Oui. Et ce VPN de CyberGhost coûte quelques sous, n'est pas gratuit, mais ça vaut la peine parce que c'en est un qui est certifié, qui est reconnu, qui est fiable, qui a 30 quelques millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est une entreprise aussi qui est assez solide. Et pour en profiter à un bon prix, vous allez dans la description de la balado, on vous donne le lien vers le spécial, l'offre d'abonnement. Sinon, vous prenez des notes tout de suite, parce que je vais vous donner l'adresse, c'est cyberghostvpn.com/ une tasse de tech 2023. 2023 en chiffres, bien sûr. Donc cyberghostvpn.com/ une tasse de tech 2023. Vous pouvez évidemment prolonger aussi un abonnement déjà existant avec ce lien. Et quand vous faites ça, ben vous aidez à financer Une Tasse de Tech aussi, parce que c'est ça le deal qu'on a avec eux. Donc allez-y, abonnez-vous, rabonnez-vous, profitez-en et sécurisez votre protection Internet, votre connexion
cliquez
Internet.
Cliquez sur le lien cyberghostvpn.com/ Une Tasse de Tech 2023. J'espère qu'il ne faut pas faire les majuscules, parce que les gens ne trouveront pas l'adresse. Cliquez sur le lien dans notre vidéo YouTube.
C'était surpris, mais oui, cliquez sur le lien, c'est le plus simple. Sinon, copiez-collez-le. Un copier-coller fonctionne très bien aussi. On parlait de téléphone pliable, Pascal, voilà. Parce que notamment, moi, j'ai de la misère comme plus que jamais à me plier, à me déplier quand je me lève et je m'assois, puis j'ai des problèmes de dos, mais les téléphones n'ont plus ce problème, parce que la technologie des écrans pliables a fait son chemin. Le leader, peut-être le pionnier, ou celui, en tout cas, qui ici au Canada, on connaît le plus, c'est Samsung avec son Galaxy Z Fold et son Galaxy Z Flip. T'as essayé le nouveau modèle, le Z Flip 5, qu'est-ce que tu en penses?
J'ai été agréablement surpris. J'ai pris le pli. Je me suis habitué et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça a pris du temps à prendre le pli. Le Z Flip 5 de Samsung, c'est celui qui se replie comme les bons vieux téléphones à poche.
Les flip phones, ben oui, voilà, d'où son nom.
Mm-hmm. Replié en deux pour fermer de façon satisfaisante. Quand on terminait notre appel, on fermait le téléphone. J'ai été surpris qu'on ne peut pas juste ouvrir le téléphone pour répondre. Il faut quand même glisser son doigt à l'écran. peut-être une option bien cachée, mais par défaut, tu déploies ton téléphone, tu dis « Oh! » Non, il faut glisser le doigt à l'écran pour répondre. Premier truc qui m'a embêté. À part ça, j'étais très convaincu. J'aime beaucoup ça. Une chose qui est le fun, c'est que quand tu le laisses, quand tu le regardes, tu le manipules, oui, tu vois le pli. Mm-hmm. Si tu regardes sur le côté le téléphone, si tu l'utilises vite, ben oui, tu vois le pli. Mais j'ai été surpris que quand tu l'utilises vraiment, quand tu réponds à un courriel, tu lis du texte, tu regardes Facebook, tu défiles quelque chose, on dirait que le cerveau l'oublie. Je sais pas, on dirait que c'est plus un obstacle réel. Oui, il est encore là. Non, c'est pas invisible. De côté, tu le vois très bien le pli. Tu le sens le pli. Quand tu défiles à l'écran avec ton doigt, tu sens qu'il y a une bosse. Tu sens qu'il y a quelque chose.
C'est l'ondulation dans l'écran. C'est pas tellement une ligne claire. Ouais, exactement.
C'est ça. C'est pas une ligne claire. Avant, c'était vraiment une espèce de pli comme dans du plastique. Je sais pas ce que ça va avoir l'air dans plusieurs milliers de pliages ou dans quelques années. Mais jusqu'à présent, c'est comme une petite bosse, un petit creux. Puis quand je travaillais avec, je me suis rendu compte que mon cerveau oubliait le pli. Donc, ceux qui ont une réserve là-dessus, je vous assure, en tout cas, c'est mon impression que c'est pas si mal. Mm-hmm. L'autre chose qui est le fun, c'est que le téléphone se plie, mais pas seulement ouvert ou fermé, on peut le plier à 45 degrés, à 90 degrés. Et là, le téléphone devient une espèce de trépied. Fait que tu peux faire un appel vidéo, tu peux faire un selfie, tu peux poser ton téléphone sur une table, consulter le contenu, et ton téléphone est bien placé pour prendre un selfie ou un appel vidéo. Et ça, c'est vraiment le fun. Tu poses ton téléphone, tu es en appel vidéo, tu n'as pas tout le temps à chercher un endroit où accoter ton téléphone ou le tenir dans ta main. C'est comme une tablette posée sur un trépied, un support. Ça marche très bien. Ou la webcam de son ordinateur, l'angle fait un super bon travail. J'adore ça. Et même, le truc que j'ai trouvé, c'est qu'en pliant le téléphone un peu comme une banane dans sa main, ça tient mieux dans sa main et je trouve que c'est plus confortable pour naviguer. Mm-hmm. C'est idiot, mais quand je fais défiler du texte à l'écran, tu glisses ton pouce dans un petit creux satisfaisant et j'aime beaucoup ça. Un truc qui est le fun, c'est quand tu le refermes, l'écran extérieur maintenant fait 3,4 pouces de diagonale. L'écran est très, très chouette parce qu'il affiche l'heure, il affiche qui appelle, on peut répondre sans déployer le téléphone, donc on peut glisser son pouce sur l'écran pour répondre et j'ai très surpris de la qualité des haut-parleurs quand ton téléphone est fermé. Encore une fois, c'est peut-être pas... Mais je m'attendais à ce que ça sonne horrible. J'étais avec ma copine qui était à côté, qui a fait « Wow, on entend vraiment bien la voix. » Puis j'ai fait « Ben, moi aussi, j'ai cette impression-là qu'on peut avoir un appel main libre sans ouvrir son Flip 5 de Samsung, qui est le Galaxy Z Flip 5, le nom complet au complet. Mm-hmm. Le truc que j'ai trouvé particulier, ceux qui font du gaming, le téléphone chauffe. Quand j'ai fait un appel vidéo de quelques minutes, j'ai été surpris que la partie sous les caméras était très chaude. J'étais comme « Ah, oh, ok, c'est chaud ». Alors, je me demande si au niveau de la consommation des piles, pour quelqu'un qui voudrait faire un usage plus ludique, le gamer, plus intensif, ça peut être un problème. Autrement, moi, j'ai pas eu de difficulté avec l'autonomie. Encore une fois, je suis pas un gars qui s'en sert non-stop, qui le déverrouille à toutes les 5 secondes, qui répond à des... Mais moi, j'ai pas eu de problème à me rendre jusqu'à la fin de la journée, sinon le lendemain, sans problème. Les bémols, maintenant. Il y en a pas beaucoup. Je te dis, j'ai été très, très agréable. Les bémols, il y a beaucoup d'applications propriétaires. Mm-hmm. Ça, c'est pas un propre du Flip 5, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung. C'est que Samsung a beaucoup, beaucoup d'applications propriétaires. Fait que t'as un deuxième navigateur web, t'as SmartThings, Samsung Health, Samsung News, Galaxy Wearables.
En fait, ouais.
Ils ont leur propre App Store Samsung qui est collé à côté de celui de Google. T'as plusieurs applications de Microsoft qui sont préinstallées. Moi, je trouve que ça fait désordre. Mm-hmm. Quand t'as l'habitude, la version épurée de Google ou même de OnePlus, tu fais du ménage de ton écran puis tu peux pas désinstaller tout, fait que t'es pris avec des applications qui sont là. Fait que ça, c'est mon petit bémol. Mais autrement, peut-être l'autre chose, c'est que je trouve qu'il est un peu glissant. Okay. Étrangement, si t'as les mains sèches, si t'as les doigts secs et tu mets ton téléphone, il se glisse dans le fond de ta poche maintenant. Fait que quand tu essaies de le sortir de ta poche, on dirait qu'il m'a glissé les doigts à quelques reprises avant que j'ai une prise plus sûre. Et évidemment, l'autre chose qui est inquiétante, c'est toujours la durabilité. Mm-hmm. Quand tu prends un téléphone pliant, il est garanti pour plusieurs milliers. Ils l'ont testé sur plusieurs milliers de plis. Le mécanisme est impeccable. Hein. J'adore le mécanisme. Quand tu le déploies, t'as pas l'impression que le téléphone peut être déployé à plus que ce qu'il peut. Mm-hmm. T'as vraiment, là, j'ose pas le faire, là, mais tu peux pas l'ouvrir plus que 180 degrés.
Il semble résistant, ouais.
Il semble résistant. Est-ce que de la poussière peut s'incruster dedans? Oui, parce qu'il est résistant à l'eau, immersion légère, peut pas faire le plongée avec, peut pas, mais si tu l'échappes dans l'eau, tu devrais être correct. Mais il est pas résistant à la poussière. Fait que ça peut être un maillon faible. Mm-hmm. Et l'écran à l'intérieur, faut pas oublier qu'il est en plastique. Il est pas en verre, Gorilla Glass.
Polymère souple,
l'extérieur, oui. Mm-hmm. C'est un polymère. Donc, on pourrait, si on a quelque chose qui frotte, une clé, un stylet, un objet pointu, on pourrait rayer son écran à l'intérieur assez facilement. Ouais.
Ce qui m'était arrivé avec un flip 2, je pense, 2 ou 3. J'avais un grain de poussière, un grain de sable entre les deux parties de l'écran replié. Je l'ai déployé, ça fait bouger le grain, ça fait une grosse graphine, c'est un peu fâche.
Ah, et là, ça peut faire un trou, ça peut faire quelque chose qui va... L'écran va être encore fonctionnel. À part ça,
téléphone qui coûte 1 300 $ avec 256
1 300 $.
1 459 dans la version que Samsung aimerait vous vendre, qui, je pense, a plus de stockage, mais qui est essentiellement la même. Donc, c'est un téléphone qui coûte le prix de l'innovation d'un écran pliable, j'aimerais dire. On peut dire ça comme ça.
Oui. Je suis assez... En tout cas, je pense que... est-ce que tout le monde a besoin d'un téléphone pliant? Non. Est-ce que tout le monde va s'acheter des téléphones? Mais une fois que tu as goûté, bon, on sent que c'est le fun. Puis là, j'ai plus le goût de revenir en arrière. Là. Je trouve qu'on est rendu avec la 5e génération, le Flip 5, on est rendu assez loin. Là. Puis je pense que ça le fait. Puis est-ce que ça va être le plus durable? Est-ce que ça va être le plus... Est-ce qu'il va en avoir un meilleur l'an prochain? Tout à fait. Mais si tu as envie d'un téléphone pliable aujourd'hui, puis que tu aimes avoir un petit téléphone dans ta poche qui se déploie, au gym, c'est fantastique, là. Mm-hmm. Ça met ça dans ta poche arrière.
Ben oui.
En tout cas, j'aime beaucoup ça.
Yes. Moi, je suis allé avec un téléphone, Pascal, qui est juste un petit peu moins cher, 1 200 $ au lieu de 1 300. C'est le Motorola Razr Plus édition 2023. C'est le deuxième ou le troisième Razr écran pliable de Motorola. C'est pas aussi avancé que Samsung, mais essentiellement, c'est le même téléphone avec une autre marque, avec quelques différences esthétiques. Mais dans l'ensemble, le principe est le même. C'est un téléphone qui se replie en deux. A un écran de 6,9 pouces, l'écran interne, qui fait 2640 par 1080 pixels, donc un format plein HD, mais très panoramique. L'écran externe, comme le tien, fait mur à mur. Il fait 3,6 pouces de diagonale. C'est un écran tactile. C'est un écran qui affiche quelques widgets. Je sais pas, je me rappelle pas pour le Flip, mais dans le cas du Razr, ce sont pas toutes les applications qui fonctionnent sur l'écran externe. Oui. Il y a une sélection d'applis. On peut prendre nos messages. Il y a une fonction d'accès rapide sur le Razr pour aller à TikTok. Je sais pas c'est quoi l'entente là, mais c'est des nouveaux peut-être, une compagnie chinoise qui aime TikTok. On peut contrôler la musique, peu importe l'application musicale qu'il joue. Il y a 6 ou 7 applications qui fonctionnent, mais sont pas toutes fonctionnelles
c'est
à l'écran.
Ça. Et tu me permets de rappeler quelque chose que j'avais oublié. Sur le téléphone de Samsung, sur le Flip, on peut rendre l'écran extérieur beaucoup plus utile en diffusant, entre autres, YouTube et Netflix sur l'écran extérieur. Mais il faut aller dans les fonctions expérimentales. J'ai mis dans mon billet des captures d'écran. Il faut creuser dans les options, dans les paramètres, options d'écran, options laboratoire et activer les applications comme Netflix ou YouTube. Et là, tu poses ton téléphone en mode tente, comme une petite tente sur ton bureau, et tu peux regarder Netflix. Et c'est beaucoup plus utile que je pensais.
C'est vraiment j'aurais chouette. Trouvé ça petit, moi, parce que c'est pas gros, 3 pouces et demi pour regarder la
vidéo. C'est tout petit, mais tu veux juste un petit quelque chose, c'est dans
l'autobus, dans le métro,
dans l'autobus, dans le métro, t'as ton petit écran extérieur, t'as pas rien qui dépasse, ou tu le poses sur un petit comptoir, t'as une petite vidéo qui défile dans le coin. Je trouvais ça très chouette.
Il y a sensiblement les mêmes choses sur le Razr. Rapidement, fiche technique, 256 gigaoctets de stockage interne, ce qui est correct. Ça commence à être le minimum acceptable en 2023, je dirais comme ça. Caméra, il y a 2 caméras à l'extérieur, 12 et 13 mégapixels respectivement. Un angle style 35 mm un peu, puis un grand angle plus comme 18-25 mm si vous voulez. Il y a une caméra frontale à l'intérieur quand on l'ouvre qui fait 32 mégapixels pour faire des appels vidéo, faire des zooms comme on fait en ce moment, des choses comme ça. On a plus le goût d'utiliser celle à l'extérieur parce que effectivement, on ouvre l'appareil. Et là, on peut faire un selfie dans ce sens-là, on peut le faire dans ce sens-là, on peut faire plein d'affaires avec l'appareil à moitié relevé, donc avec le volet supérieur à 90 degrés. Le processeur, c'est le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm et c'est le processeur 2022. Samsung a une version Gen 2, génération 2.
J'ai pas parlé des spécifications techniques.
C'est pas super grave, mais dans mon cas, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, bordel, Qualcomm, les noms de processeurs, ils ont changé ça récemment. à partir de Snapdragon 8, là, ils ont comme revu la nomenclature, puis c'est mêlant plus qu'autre chose. 8 plus Gen 1, ça veut absolument rien dire pour le commun des mortels. Oui. Mais bon, bref, c'est un bon processeur. C'est pas le plus. Les gens vont dire, ah, mais c'est pas le dernier cri, mais il va être bon encore 4, 5, 6 ans, oui. Facile, faites-vous-en pas avec ça. Il a un défaut, il offre 14 heures d'autonomie sur cet appareil-là, qui semble beaucoup. 14 heures, c'est bien en masse pour une journée. Mais si vous êtes un utilisateur moindrement intensif, vidéo, échange, oui. Appel vidéo, tout court, consommation de prise de photos, ainsi de suite, ça peut arriver juste en fin de journée pour vrai. C'est 14 heures qui sont généreuses dans l'estimation de Motorola, à mon avis. Les deux écrans sont le fun. L'écran extérieur, la surface est lisse, mais elle est comme tachante. Les traces de doigts, les empreintes digitales paraissent super vite. Faut tout le temps l'essuyer mal utilisé parce qu'on voit rien à cause qu'il y a des reflets. T'sais, si vous regardez sur YouTube, vous voyez, je le bouge, qu'il y a des reflets qui apparaissent tout le temps, oui. Parce que justement, ça reflète beaucoup de choses. Et on voit des traces, des coulisses de doigts quand on glisse les doigts dessus. C'est une surface tactile externe. Le lecteur d'empreintes, l'appareil pour le déverrouiller, c'est sur le côté. On met son doigt dessus, on l'active. Et quand on met dans sa poche, on peut appuyer par mégarde sur le bouton et frotter le pantalon sur la surface tactile et créer ces fameux pocket calls qui sont un phénomène, n'est-ce pas? Et ça m'est arrivé déjà deux fois en trois jours. Fait que c'est pas pour dire, on devrait pourtant faire attention à ces choses-là, mais c'est un petit détail qui devient rapidement irritant quand ça devient trop souvent répétitif. Évidemment, c'est un appareil qui se porte très bien. Tu parlais de l'interface Samsung. L'interface logicielle de Motorola, qui s'appelle Moto, existe depuis des années et revient avec les gestuels. Deux petits coups pour partir la caméra, un petit mouvement va-et-vient pour partir la lampe de poche, ou peut-être l'inverse. Là, il y a différents gestes comme ça qu'on fait qui sont naturels, comme quand on avait un téléphone. Et Pascal, je te le dis tout de suite, quand le Razer sonne, on l'ouvre et on peut parler et ça répond. C'est une fonction du Razer, comme le Flip, comme le Razer à l'époque.
Voilà
un avantage sur l'appareil Samsung. Écoute,
quand tu fermes le téléphone, ça coupe ton appel.
Et quand
ça,
tu
c'est
fermes,
cool.
ça raccroche.
C'est mais comme un quand téléphone. Tu l'ouvres, c'est ça. Quand tu l'ouvres, j'étais déçu d'avoir à glisser loin. Il y a peut-être une option que j'ai pas activée. Je me dis pourquoi ils font pas par défaut. Ce genre d'affaire, tu veux que ce soit ça par défaut.
Ce serait logique, effectivement. Un défaut, c'est le standard de résistance à l'eau et à la poussière IP58. Ouais. Donc, peut juste passer proche de toucher à de la poussière, mais n'est pas entièrement étanche, ni à l'eau, ni à la poussière. Il ne peut pas l'immerger. C'est à peu près ça. Le prix est quand même pas donné, mais il est moins cher que le Flip. Donc, si vous cherchez quelque chose de pliable, c'est une option. Par opposition aux plus gros téléphones, comme le Fold ou le Pixel Fold de Google, que j'ai aussi, je pense que les versions, le Flip et le Razer sont peut-être plus conviviales, plus fun d'utiliser au quotidien et conviennent mieux à la plupart des gens. Je veux dire ça comme ça.
Ah, c'est drôle. Si tu as un petit téléphone, le Flip ou celui que tu as est vraiment, vraiment chouette.
Oui, c'est ça que je dis. Mais inversement,
quand j'ai reçu,
j'ai pas essayé le Fold 5, j'ai essayé le Fold 4 l'année dernière et je ne suis pas un fan du Fold de Samsung parce que je trouve que l'écran refermé est trop étroit pour être réellement utilisable. Alors moi, je reviens ici avec quelque chose qui malheureusement n'est pas vendu au Canada, mais que je vais mentionner puisque je l'ai reçu, c'est le Pixel Fold qui lui a un écran externe dans un format plus typique d'un téléphone intelligent normal, un peu plus large, pas très. Le ratio d'image est plus décent, ce qui fait qu'on a plus tendance à vouloir l'utiliser même refermé. Et là, tu te rends compte que ça a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que comme on peut l'utiliser souvent fermé, on se demande pourquoi il faut l'ouvrir, parce qu'on n'a généralement pas besoin de l'ouvrir si on peut ne pas l'ouvrir. Mais on a quand même un bel appareil qui devient presque une tablette parce qu'on arrive avec un appareil qui a un écran de 6,9 pouces de diagonale plutôt que l'extérieur, je crois, je me corrige, j'ai fait des erreurs. L'écran interne fait 7,6 pouces de diagonale comme une petite tablette, si vous voulez.
Petite tablette.
Et l'écran externe fait 5,8 pouces, mais dans un ratio différent, donc plus étroit, mais quand même utilisable. Ça, c'est ce que je dirais qui distingue le Pixel Fold du Galaxy Fold de Samsung au premier coup d'œil. Pour tout le reste, je pense que l'expérience est pas mal la même, même si la fiche technique du Pixel Fold est différente. Là, c'est le processeur Tensor G2 développé à l'interne par Google. Ça dit pas grand-chose, mais c'est un appareil qui est assez puissant. Là. Je peux pas dire qu'il est particulièrement spectaculaire en termes de performance. Google Maps s'ouvre, les applications s'ouvrent à la même vitesse.
C'est ça, c'est dur maintenant. Les gens se demandent pourquoi on passe moins de temps sur les specs précis. Ça faisait une grosse différence d'avoir un 3,86 ou un 4,86. Maintenant, à moins de faire des tests de performance avec des jeux extrêmement sophistiqués auxquels je ne joue pas personnellement.
Je veux dire, deux choses rapides. L'autonomie est annoncée entre 24 et 33 heures. Je veux dire, c'est une bonne journée d'utilisation. C'est peut-être pas deux jours, là, mais c'est une bonne autonomie pour cet appareil-là, effectivement, au niveau de la batterie. Et la caméra, en fait, les caméras sont à l'arrière. Il y a trois objectifs. Il y a évidemment une caméra frontale aussi qui permet de faire des photos dans plein de configurations, là, des selfies ou pas, debout ou pas, avec un trépied ou pas. Mais Google revient avec son fameux zoom d'intelligence artificielle, ses retouches numériques. Là, il y a une expression, je ne sais plus c'est quoi, mais il fait des super belles photos pour un téléphone pliable.
Ben oui.
J'ai trouvé que c'est lui qui faisait les plus belles photos de tous les téléphones dont on parle ici. Donc, c'est peut-être quelque chose qui fait une différence si ça vous intéresse. Et le dernier défaut, évidemment, c'est que si vous voulez acheter le Google Pixel Fold, ben, il faut aller aux États-Unis parce qu'il n'est pas vendu au Canada. Il fonctionne au Canada, il fonctionne avec les réseaux, il fonctionne avec tout ce qui est ici, mais il n'est pas vendu ici. Donc, ce serait un petit détail. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai dû installer une application cette semaine. Il a fallu que je configure mon Play Store de Google aux États-Unis. Oh. Et parce qu'il y a une application qui n'était pas offerte ici, mais que je voulais essayer. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand on change de pays dans le Play Store de Google, ça dure 12 mois. Alors que sur, par exemple, chez Apple, ça dure comme le temps que tu l'utilises, en fait, sur l'App Store d'Apple. Donc là, j'étais un peu déçu. Et si vous l'utilisez, si vous achetez un Pixel Fold, si vous prenez la folle envie d'aller pendant un voyage aux États-Unis, d'en acheter un, cool. Mais faites attention parce que votre Play Store pourrait vous jouer des tours. Parce qu'après, quand vous configurez d'autres appareils avec l'assistant Google et ainsi de suite, ben, automatiquement, il géolocalise aux États-Unis. Et là, ça devient un petit paquet de troubles, peut-être, dans certains cas, j'ai. C'est un léger détail, c'est un bémol, mais pour les gens qui sont un peu pointilleux sur ces choses-là, faites attention. Sinon, ben, c'est dommage qu'il soit pas vendu ici parce que le Pixel Fold m'apparaît comme le plus intéressant des deux gros téléphones pliables qu'on connaît en ce moment. Les écrans, dans le cas de celui-là, on dit qu'il est bon pour, il y aura pas de traces d'usure sur l'écran pour au moins 400 000 ouvertures et fermetures. Je sais pas combien de fois on l'utilise dans une journée, mais calculer ça puis diviser ça par 365, ça vous donne une idée du nombre d'années que ça peut être bon. C'est beaucoup. Mais c'est pas non plus à l'épreuve des égratignures, ces choses-là. Donc, ça, c'est un détail. Mais dans l'ensemble, et le Pixel Fold, c'est un beau premier essai. Google, qui souvent, sur le premier essai, a tendance à pas toujours réussir son coup, sur celui-là, a vraiment fait un beau premier jet. J'ai hâte de voir s'il va avoir un Pixel Fold 2 l'année prochaine, vendu au Canada, qui va être meilleur, parce qu'on s'en va vraiment quelque part de bien avec ça. Il faudrait qu'il soit moitié prix aussi.
C'est ça, parce qu'il y a 1799 américains, le Pixel Fold.
Ouais.
Fait que c'est 2200 canadiens.
Les gros sous.
Ça.
1700 $, là, ouais, ça vient.
Mais t'as deux téléphones collés ensemble. C'est l'équivalent de deux téléphones, tu peux le voir comme ça.
Mm-hmm.
Malheureusement, je peux pas les détacher.
Je lisais un livre numérique sur l'application Kindle sur le Pixel Fold. Et quand on l'ouvre, il y a une page à gauche et une page à droite comme un petit livre de poche. Et c'est d'ailleurs, ça va être, je pense que c'est mon sujet de chronique dans Le Devoir en fin de semaine, c'est que tout d'un coup, votre téléphone n'est plus une espèce de bébite à réseaux sociaux, ça devient un outil, vous pouvez lire un livre, donc ça peut devenir reposant en écoutant de la musique grâce à l'écran qui se replie, donc ça crée une nouvelle forme d'utilisation de l'appareil qui peut-être est plus intéressante. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui
s'intéressent. Mettre un écran en papier électronique à l'intérieur, imagine que ton téléphone s'ouvre, que ce soit une liseuse, papier électronique.
T'as un téléphone, tu l'ouvres, t'as une liseuse.
T'as une liseuse. À ce moment-là, t'as ton écran complet à l'extérieur. Tu ouvres, t'as ta liseuse à l'intérieur.
Ça, peut-être qu'on devrait ne pas en parler en public et garder ça pour des investisseurs, Pascal. Peut-être qu'on a une niche.
On garde ça. Chut, chut, chut. Là-dessus, on remercie nos partenaires.
Oui, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. Pascal, les partenaires, on les remercie bien sûr.
Plan Hub, TELUS et Jura. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast. Merci beaucoup. Claude Hébert, la mise en onde. Merci Claude.
Et Jean-Christophe Ouellet aussi qui, généralement, c'est lui qui fait vraiment la mise en onde. Donc,
Jean-Christophe, merci.
Voilà.
PascalForgette.com pour me trouver. Je publie des billets, entre autres celui sur le Flip 5. Je compte faire l'essai du Fold de Samsung un peu plus. Mais je sais pas pourquoi j'avais le goût de plus petit que plus grand et plus petit m'a charmé. Est-ce que je vais tomber en amour avec plus grand aussi. Et Alain Mekelon, on peut te suivre partout, entre autres, dans Le Devoir, dans Info Bref.
Info Bref, ça recommence chez vous dans Le Devoir.
Voilà.
Et abonnez-vous à Une Tasse de Tech aussi, c'est important sur votre plateforme parce que vous allez profiter en premier de l'édition de la semaine prochaine d'Une Tasse de Tech parce qu'on va être en direct de quelque part. Peut-être que je vais être revenu, mais on va être certainement en train de parler de l'unité de la peau parce qu'on sera sur place.
Tu vas être des à journées. Quelque part. Moi, je vais être ailleurs. C'est ça.
Je pense qu'on va l'enregistrer en partie en direct de Cupertino parce que je suis là durant la conférence où on va parler de nouveau iPhone. Donc, manquez pas ça. Ça va être intéressant parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. Entre-temps, ben écoutez, abonnez-vous, réécoutez nos épisodes précédents. Ouf! Prenez du soleil, il va faire beau. L'automne s'en vient, quoi qu'on en dise. Et entre-temps, on vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.